affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons nous éloigner considérablement de l'écume des jours et de l'actualité. Nous allons en effet prendre de la hauteur, ou au contraire aller plus en profondeur. Nous allons en effet nous pencher sur cette question dont on se demande si elle est immémoriale ou très contemporaine, celle du sens de la vie, la question qui comprend toutes les autres. En effet, au fil de nos lectures, des conversations avec nos contemporains, on voit qu'ils se posent des questions sur le sens de leur travail, par exemple, le sens de leur relation avec les autres, la durée de l'amitié, toute chose très contingente, mais qui finalement ramène probablement à cette question fondamentale du sens de la vie, de leur vie, parce que nous sommes dans une époque individualiste, donc on se pose d'abord cette question en termes individuels, pour ensuite certainement l'élargir, et pour creuser cette vaste question, cette question cruciale. Nous avons la chance de recevoir dans notre studio Edgardo Carosella. Edgardo Carosella, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences, chef de service en hémato-immunologie à l'hôpital Saint-Louis. Vous êtes également président de la commission du pli-cacheté de l'Académie des sciences. Peut-être aurez-vous l'occasion de nous en parler, car c'est une pratique qui défie le temps et qui a un rapport plus ou moins lointain avec le désir d'immortalité, de laisser une trace, toute chose qui nous taraude tous, même dans nos activités les plus quotidiennes. Mais si vous êtes ici, ce n'est pas seulement en tant que scientifique, car la réponse à la question du sens de la vie ne peut être uniquement scientifique, c'est parce que vous avez piloté un colloque organisé sous l'égide de l'Académie des sciences, de la Fondation Saint-Germain-Polignac et de l'Académie des sciences et morales et politiques, et qui avait justement pour thème le sens de la vie, envisagé d'une façon extrêmement multidisciplinaire ou polyphonique, puisqu'on y trouvait à la fois des réponses données par des scientifiques, des philosophes, des hommes d'église, des juristes, des historiens, je pense, mais même également un ancien banquier central, ce qui montre à quel point, effectivement, cette question ne peut être une chasse gardée, car elle nous concerne tous. La première question, puisqu'on est donc quand même, malgré tout, dans un sujet qui concerne la philosophie et la métaphysique, c'est celle du sens de la question, le sens de la vie. Comment l'avez-vous envisagé? Est-ce qu'un début de réponse ne tient pas dans cette variété, justement, d'intervenants?
Alors, tout d'abord, les colloques de sens de la vie, c'est une continuation. Pour faire un tout petit histoire, en 2013, le chancelier Pierre Messmer me demanda de faire des réunions interacadémiques entre l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques sur un sujet commun, mais qui puisse avoir une suite. Nous avions choisi, à l'époque, l'identité, car au nom de l'identité, on dit beaucoup de choses, mais on fait beaucoup d'erreurs. Et on s'est rendu compte aussi que pour les juristes, pour les biologistes, pour les sociologues, pour les philosophes, les mêmes mots ne recouvraient pas les mêmes vérités ou la même définition. Cette colloque nous a amené à la fin à une question. Est-ce que l'identité de l'individu est changeant ou pas? Un deuxième colloque, en 2008, s'est réalisé avec les deux académies et l'Académie pontificale pour répondre à ces questions. À l'issue de cette colloque, il est apparu que l'homme, s'il avait une identité changeante, peut-être aussi c'est parce qu'il était un peu fatigué de son être. Et cela nous conduisait au transhumanisme, à l'homme inventé. Colloque et ouvrage qui a été réalisé en 2014. Mais évidemment qu'on arrivait tout de suite au sens de la vie. D'abord parce que tout être humain s'efforce de définir son identité en cherchant l'essence de sa vie. C'est un homo beatus qui parcourt un chemin en cherchant quelle est l'essence de sa vie. Mais pour savoir quelle est l'essence de sa vie, il faut qu'il puisse se reconnaître et connaître lui-même, c'est-à-dire quelle est son identité. Donc, nous arrivons à ce livre, à cette colloque, après, comme l'homo beatus, avoir acheminé une série de questions.
Voilà, mais qui néanmoins ne forme pas une flèche, mais plutôt un cercle ou une triangulation, puisque chacune aide à répondre aux autres.
Exactement. C'est ce qui vient. Alors, c'est évident que le concept de sens de la vie est indissociable de son origine et de sa finalité. Il n'est pas abstrait et est soumis aux objectifs que chaque individu se donne. Ceci impliquant les valeurs à accomplir. Ce qui rend l'être humain responsable de ce qu'il réalise. L'essence de la vie nous envoie à une question qui interpelle l'homme sur son origine et la finalité de sa vie. Et ça, c'est très important. Quand l'essence de la vie échappe à l'individu, il est confronté à ses incertitudes et craintes. Et évidemment, il peut succomber au vide existentiel, allant du repliement sur soi-même jusqu'à sa destruction. Car ce sens n'est pas inné. Mais bien au contraire, il s'inscrit dans une recherche constante. Combien même nous croyons à la prédestination. Alors, quand la vie n'a pas de sens, on peut croire qu'il n'a aucun prix et ne suscite aucun espoir. La littérature, depuis Aristote jusqu'à nos jours, passant par Freud et tout ce que vous voulez, compris de façon drôle les Montefitons, ils ont fait des analyses qui essayent de répondre à ces questions. Alors nous avons fait les nôtres en réunissant des hommes de tout horizon, des économistes, des scientifiques, des philosophes, des sociologues, pour répondre. Et vous verrez que chacun en fin de compte, bien que très différent à l'autre et presque tout à fait opposé, il va rejoindre en quelque sorte les mêmes sens dans la réponse de cet sens de la vie.
Alors est-ce que vous pensez que c'est une question éternelle et immémoriale ? Vous avez déjà un petit peu répondu. Mais il y a peut-être quand même une différence avec les temps passés. C'est que cette question a eu un certain nombre de réponses qui s'imposaient aux individus, tant et si bien que l'individu était déchargé de cette quête de sens. Il pouvait se référer à un certain nombre de normes ou de croyances communes, alors que peut-être aujourd'hui, et c'est à la fois la grandeur et la difficulté de l'homme moderne ou contemporain, c'est qu'il est en quelque sorte chargé lui-même de remplir de sens cette vie qu'il a pourtant reçue, qu'il n'a pas demandée, et qu'il peut du coup porter un peu comme un fardeau.
Alors, si nous voyons l'homme, parce que il faut voir l'essence de la vie dans l'ensemble des vies, et pas simplement dans la vie humaine.
Oui, voilà, c'est la première question, c'est est-ce qu'il s'agit de la vie en tant que telle ou de la vie humaine ?
Non, s'agit de la vie en tant que telle, parce que de toute façon, et nous pourrons venir ensuite, il n'y a pas... on ne peut pas analyser la vie de l'homme, la vie des bactéries, tout est impliqué. Nous accueillons dans notre organisme un nombre de bactéries bien plus important que le nombre de nos cellules. Donc comment être méprisant vis-à-vis des bactéries, puisqu'il est plus nombreux dans notre organisme que nos propres cellules.
Oui, mais le nombre ne fait pas tout, quand même.
Absolument, mais tout de même. Oui. Tout de même. Alors, pour revenir à votre question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a essayé de répondre à cette question depuis Aristote, est-ce que la réponse est la même ou on n'a pas changé? Et vous touchez quelque chose d'important que Pierre Manon, il a quelque part répondu en disant, ou plutôt je vais les répondre avec ce qu'il a écrit Pierre Manon, en disant la question du sens de la vie ne s'imposait pas aux hommes vivants sur la loi grecque, romaine, juive, chrétienne. C'est-à-dire que l'essence de la vie, c'était en quelque sorte être accord à la loi.
La question existait, mais il y avait une réponse.
Et il y avait une réponse, en quelque sorte, bon, voilà, quelle est l'essence? On respecte la loi. Aujourd'hui, enfin, et depuis déjà pas mal de temps, nous vivons sur une loi d'autorisation. Nous sommes autorisés à être tout ce que nous voulons être. Deviens ce que tu es.
Ce qui n'est pas une autorisation, c'est une injonction.
Certainement.
C'est moins confortable.
C'est beaucoup moins confortable.
Car aujourd'hui, moi, si je vois la littérature contemporaine, que ce soit dans le monde du travail, ou même les rayons entiers qu'il y a dans les librairies sur le développement personnel, la quête du bonheur et autres, c'est que l'homme et les femmes d'aujourd'hui sont confrontés à cette injonction, par exemple, de se réinventer soi-même, se choisir un destin, une destination, se construire. C'est assez étonnant, quand même.
Tout à fait, mais ce n'est pas parce qu'on change de parcours qu'on a changé de sens. On peut vivre plusieurs vies, l'essence, il ne reste que les mêmes. Et ce n'est pas parce que votre GPS change votre parcours que change votre destination.
Là, c'est le biologiste qui parle.
Oh, quand même.
Mais de fait, je ne sais pas si j'ai bien compris votre observation, mais quel que soit, ça pointe peut-être l'orgueil. Qui nous étreint lorsque nous prétendons pouvoir nous réinventer, nous reconstruire, nous forger un destin. Au final, finalement, peut-être que plus que deviens ce que tu es, il faut se souvenir de connais-toi toi-même, notre condition d'être en tant qu'individu des mortels. Et n'est-ce pas la cause finalement de cette interrogation un peu angoissante sur le sens de la vie? Si nous n'étions pas mortels, peut-être même le temps ou la perception du temps n'existerait pas, ou même si le temps existait, il nous angoisserait moins.
Alors, vous touchez là un aspect qui est Marion, Jean-Luc Marion, de l'Académie française, il avait abordé. Et il a dit dans son livre, pour parler de la vie, il faut se trouver hors de la vie. Il faudrait faire les morts. Alors, on ne peut pas, on ne peut pas faire les morts et parler encore. Je sais que c'est juste parce que on ne peut pas être objet et sujet en même temps.
Dans une démarche scientifique, en tout cas, je crois que ce n'est pas possible.
C'est tous les problèmes d'analyser les cerveaux. Comment on peut être objet et sujet simultanément? Et il a ajouté, nous ne possédons pas la vie, mais c'est la vie qui nous possède. Nous sommes des locataires, pas des propriétaires. Et je crois que ça, c'est très fort. c'est qu'on croit toujours l'inverse. Nous possédons la vie. Nous sommes les propriétaires de cette vie. Absolument pas. Nous sommes que des locataires et c'est la vie qui nous possède. Bien sûr que celle-ci, il y a une connotation spirituelle très profonde et qui nous amène à la transcendance. Mais cette transcendance fait partie de justement cette identité de l'individu et d'être. Car si nous, nous terminons avec la vie, ben c'est pas grand-chose.
Car la vie, elle continue.
La vie, elle continue, mais l'homme, l'espèce humaine, c'est la seule qui a ses sens de finiture. C'est les seuls qui savent, ou qu'il a la certitude qu'il va mourir. Il doit laisser quelque chose. Rappelez-vous Platon dans Les Banquets. Ici, il y a trois formes d'avoir une transcendance, de laisser sa trace dans ce monde. La première, c'était la plus simple, avoir des enfants, c'est-à-dire génétiquement se reproduire. Très bien. La deuxième était déjà un petit peu plus élevée, disait laisser son nom dans les marbres, inscrit dans les marbres. Autrement dit, être un personnage, un grand guerrier, ou un philosophe. Et la troisième était la plus compliquée, c'est-à-dire de s'aimer dans l'esprit des autres, ce que on pense, et à son tour, les autres vont s'aimer dans l'esprit des autres, la même théorie. C'est le cas de Socrate, que nous le lisons sans que lui-même n'ait écrit.
Oui, enfin, c'est donc, la destinée humaine collective du reste. Hein.
Exactement. Donc, il y a, dans ces sens de la vie, il y a ce côté des transcendances. Et nous le verrons ensuite aussi avec Petit Gérard, qui est sans...
Compositeur et musicien.
Alors, grand compositeur,
chef d'orchestre
perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, voilà un peu pour répondre à votre question.
Oui, ce qui est intéressant, je trouve, dans la remarque de Jean-Luc Marion, de l'Académie française, lorsqu'il dit « la vie nous possède », c'est une remarque qui est certainement liée à sa propre sensibilité de chrétien, mais elle rejoint finalement les observations qui sont rassemblées dans la première partie de l'ouvrage ou du colloque, parce que j'ai oublié de dire en introduction que ce colloque avait été publié sous forme d'ouvrage sous le titre « Le sens de la vie » aux éditions Hermann. Donc dans cette première partie sont essentiellement des scientifiques qui répondent, et en gros l'idée qui en ressort, c'est que précisément la vie est immortelle, que le sens de la vie c'est son auto-reproduction, que c'est même sa définition, puisque est vivant celui qui arrive à, en quelque sorte s'auto-engendrer, et c'est ce qui le distingue de la matière inanimée. Or, que l'on soit une cellule, vous prenez même vous-même, monsieur, l'exemple des cellules cancéreuses, et qui visent elles aussi à se reproduire, à se perpétuer, eh bien... Nous sommes des vecteurs de la vie, nous sommes au service de la vie, de cette perpétuation. Ça rejoint, finalement, alors, ce que dit Jean-Luc Marion.
Tout à fait. Alors d'abord...
Êtres sont mortels, les cellules sont mortelles, mais la vie est immortelle.
Tout à fait.
Potentiellement.
Alors, d'abord, on n'est que trois scientifiques. Hein. Ce n'est pas un livre scientifique.
Oui, je parlais de trois dans la première partie consacrée aux origines.
Ah oui, d'accord. Pardon. D'accord.
Voilà. Alors, dans laquelle il y a également Petit Gérard, justement.
Absolument, parce qu'on a essayé de que... justement, que les échanges soient plus importants, mais pas seulement entre scientifiques et
mais d'abord... Mais sur les origines de la vie, c'était tout à fait légitime de faire appel à vous.
Ouais. Alors, cet ouvrage, je dirais qu'elle apporterait donc rien de nouveau s'il ne prenait pas comme point de départ l'ensemble des individus qui constituent la nature. Des êtres sans conscience... sans question ni réponse, mais dont la vie a tout de même un sens. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'exemple de la cellule cancéreuse, dont je parle dans le livre. On peut se dire, mais quelle idée prend la cellule cancéreuse comme modèle de sens de la vie? Une cellule qui va tuer l'autre, il les prend comme sens de la vie. Eh bien oui, il résume tout l'essence de la vie, car cette cellule n'est pas programmée pour être cancéreuse. Jamais il a dit, tiens, je vais venir cancéreuse et je vais tuer mon hôte. Absolument pas. Il est une mutation, il a évolué, il a suivi avec une autre mutation, et petit à petit, elle est devenue cancéreuse. Mais il n'avait été pas programmé de départ pour cela. Suivre la matérialité des vivants, et particulièrement de l'homme, ne ferait que dévier la réponse. Sinon, on mettrait quel est le produit d'une longue évolution, issue de réactions physico-chimiques complexes, comme il a décrit François Gros, Pierre Encranas, ou encore Christian Amator. La vie se présente sous des formes et des échelles tellement différentes et variées que la réponse à son sens ne peut pas être unique, et moins encore universelle. L'évolution a donné à chaque espèce une dynamique qui fait que l'essence de la vie est en constant changement et que sa seule finalité, et probablement la plus importante, c'est la vie elle-même et la conservation de l'espèce. Quand la cellule tumorale mute, c'est pour se sauver de l'organisme qui essaie de l'écarter. Et il va devenir immortel, jusqu'à ce que... Mais par aimant, quand il y a un individu, peu importe, qu'il soit une bactérie, qu'il soit un homme, qui change, il va produire un changement autour des autres individus, pour qu'ensemble puisse vivre. Sinon, il va y avoir un qui va rester dans les géments. Et alors, les grands rabbins de France, Haïm Korsia,
membre de l'Académie des sciences morales et politiques.
Membre de l'Académie des sciences morales et politiques, pardon. Il dit quelque chose de formidable. Il dit, transmettre l'essence de la vie, c'est transmettre l'essence du bonheur. Transmettre l'essence de la vie, c'est transmettre l'essence du bonheur. Évidemment, que là, il nous amène à une citation de la Bible, n'est-ce pas, au Deutéronome, dont la transmission du savoir et de son savoir-faire. Interroge tes pères et te racontera. Interroge tes anciens et te diront.
Oui, mais alors, comme dans toute pensée juive, il aime beaucoup les paradoxes parce qu'en fait, il démarre quand même sur complètement autre chose. Parce qu'il a le sens de l'humour, le grand Haïm Korsia aussi.
Il a commencé avec une histoire très drôle et il a terminé avec une histoire...
Plus orthodoxe.
Elle est très drôle, cette histoire. Oui. Je trouve qu'elle est très drôle, mais surtout, il a... une morale assez importante. C'est l'histoire de Golfer. Hein? Et c'est une histoire extraordinaire parce que son histoire termine en disant, en définitive, si son histoire, qu'elle est merveilleuse, il ne peut pas la raconter, ne peut pas partager, n'a aucun sens et ça ne sert à rien.
Oui. Oui. Mais c'est, voilà. Mais ça entre en résonance avec la première histoire qu'il raconte.
Bien entendu.
Voilà. Ou finalement, je ne sais pas s'il faut la raconter ou pas. Elle est assez mignonne, mais elle est un petit peu longue.
Oui, enfin, d'appel.
Je résume. Un rabbin est sur son lit de mort, comme souvent dans une histoire juive. Il fait venir ses fils et il leur dit la vie est une flèche. Les fils partent aux quatre coins, parce que c'est ce qu'il leur transmet avant de mourir, partent aux quatre coins de la planète pour. Avoir des entretiens avec des rabbins bien plus savants, de centres spirituels pleins de rayonnement. Et le fruit de leurs investigations, c'est que la vie n'est pas une flèche. Donc ils reviennent auprès de leur père, qui est un moribond coriace, puisqu'il est toujours là, pour lui apprendre que le résultat de ces investigations, c'est que la vie n'est pas une flèche. Et le moribond ne se laisse pas démonter, dit oui, on peut dire cela comme cela aussi. Tant et si bien que la morale de l'histoire, c'est que ce qui constitue la foi, l'essence de la foi, c'est le doute. Oui. Bon. Partant de là, évidemment, on n'a que répondu à moitié à la question, mais on a probablement une très belle image de ce que c'est que la nature humaine et du vertige que donnent des questions du type du sens de la vie. Et là, j'en reviens aussi à Jean-Luc Marion, parce que finalement, tout ça forme un tout, ou aux déclarations de certains scientifiques qui disent, bon, bah, ok, vous pouvez répondre en quelque sorte au comment, mais toujours pas au pourquoi. Donc la vie, la décrire, expliquer comment elle se répand, comment elle peut être dans l'entropie ou dans son contraire. D'accord. Mais dès lors qu'on pose la question du sens, finalement, tout le monde est un petit peu démuni. Les hommes d'église comme les autres. On peut se donner des règles sociales, juger une civilisation en ses fruits, ou, comme le dit le rabbin Corsia, eh bien, le doute, c'est ce qui permet d'avoir du respect entre nous. Mais tout ça, on est dans l'ordre de la religion, une façon de relier les hommes entre eux. On n'est pas dans la question fondamentale, finalement, qui reste un peu en suspens.
Mais, il n'y a pas une formule. Il n'y a pas une formule magique. Et je le disais, l'évolution a donné à chaque espèce une dynamique qui fait que l'essence de la vie est en constant changement. Et que ça, donc, si il y a une question commune à tous, l'essence de la vie, sa finalité élémentale, c'est la vie elle-même. Ça, personne ne peut dire le contraire, et la conservation de l'espèce. Car la vie de tout être est existence et déploiement. Il n'est pas isolé. Et probablement, c'est là la difficulté à donner des formules. Mais au sein d'un complexe où les échanges sont constants. La condition de la vie n'est pas de vivre pour soi-même, mais pour un ensemble, pour une communauté. Dans un autre contexte, Paul de Tarse disait « Nul entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. » C'est autour de la vie de chaque individu que celle d'une communauté s'organise. Chacun bénéficiant de l'autre, sans pour autant mesurer ce qui lui revient. Ars longa vita brevis, l'art est long, la vie est brève. Cet aphorisme d'Hippocrate s'adressait à la façon dont chacun dispose de sa vie, envers soi et les autres. Les sentiments ne sont pas un reste. Ce qui, à de nombreuses occasions, peut nous permettre de retrouver ses sens. L'art esthétique nous apprend plus que toute introspection. On a parlé des Pierre Manant. Mais, je pourrais reprendre Laurent Petit-Gérard, que, on a dit, un grand compositeur, aborde la question de l'essence de la vie d'une autre façon, d'un synoptique reversé. C'est-à-dire, quel est l'écho dans l'acte créateur d'impulsion originale qui pousse l'artiste à sublimer sa condition d'homme. Peut-être aussi que c'est la recherche d'une transcendance, consciente ou inconsciente. La peinture paléolithique à Lascaux ou autre montre bien que déjà l'homme essayait. Alors, quelle était sa pulsion? Et là, il raconte, histoire pour histoire, aussi une histoire que j'ai aimé beaucoup, Mozart, à 6, à 4 ans, devant son clavecin, son père le demande, que fais-tu? Et il répond, je cherche les notes qui s'aiment. C'est formidable.
Oui, c'est très joli.
Alors, Radman, dans ce même sens, parce que quand même, Radman, qui c'est un grand scientifique, professeur au Collège France, membre de notre académie, et les grands spécialistes de l'horloge biologique, dont...
On est dans les pulsations, là aussi.
Voilà. Il va dire, l'essence de la vie est de susciter et nourrir les émotions. Il n'est pas si loin que cela de Haïm Korsia, quand il dit « transmettre l'essence de la vie, c'est transmettre l'essence de bonheur ».
Oui, petite nuance près, je vois que c'est lui, c'est qu'il met quand même, puisque ce serait un trait commun à l'humanité, il explique que toutes les vies sont soumises à cet impératif, et que donc dans l'eau, il y a tout à la fois, je ne sais plus les exemples qui datent, mais enfin, il y a aussi Mozart, mais également Hitler, et finalement, tous les personnages sont soumis à ce même impératif. Donc ça ne résout pas la question morale, si vous voulez, ou de la destination, ou du sens que l'on donne. C'est-à-dire que si on est seulement dans l'émotion, de fait, j'imagine que les grands rassemblements de Nuremberg pouvaient procurer des émotions de la même façon qu'une cathédrale gothique ou que l'art roman ou l'art rupestre. Vous voyez, c'est ce qui est terrible avec l'être humain, c'est que quand on donne des explications qui sont d'ordre mécanique ou naturaliste ou je ne sais pas comment il faut les appeler, on n'épuise pas la question. On l'épuise peut-être pour les bactéries ou pour les cellules cancéreuses ou autres, et nous faisons partie de ce monde-là, ça j'ai bien entendu. De fait, nous faisons partie de ce grand tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de radicalement différent qui sépare ? Alors je sais que maintenant, on a tendance quand même à faire bouger la frontière entre de l'intelligence, à la faire redescendre vers d'autres types de mini-dés, de grands singes et autres. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose qui est de l'ordre de l'inquiétude, peut-être, ou comme le disait le Rabbin Haïm Korsia, du doute, qui nous sépare du reste de cette grande soupe en évolution encore aujourd'hui.
Oui, mais n'oublions pas que la question elle est très complexe, parce qu'on est en train de l'adresser à la vie de l'individu, mais aussi la vie de tout individu, c'est-à-dire des bactéries, des plantes ou autres. Ce n'est pas parce que nous pouvons trouver une réponse à la vie de l'homme qui concerne la vie de tout le monde, de tous les individus vivants. Vous savez, pour Sénèque, par exemple, la vie s'est divisée en trois temps. Celui qui est, celui qui fut et celui qui viendra. La première, il est très court. La deuxième assurée, évidemment. Mais par contre, pour la troisième, complètement incertaine. Alors, cette formulation s'adresse aux hommes, oui, mais s'adresse aussi à tous les êtres vivants. Il n'y a pas de suprématie, hein, des unes sur l'autre, ou une échelle suivant les espèces. La seule différence qu'il y a, c'est que l'homme est un être rationnel, doté d'une volonté, qui peut mettre au service du sens de sa vie. Des autres, non. François Gros, pendant les 7 livres, il écrivait « Avec la volonté, on fait de sa vie son destin. » L'essence de la vie est indépendante de la durée de la vie même. Ce n'est pas parce qu'on vit plus, on vit moins, que l'essence est différente. D'ailleurs, les malades les plus gravement atteints nous montrent bien que l'être humain, dans les moments les plus compromis, peut se dépasser et réorienter à nouveau son sens. Le prix de la vie n'est pas dans la durée, mais dans son usage, disait Sénèque.
On est là, dans, je pense, dans l'éthique de l'honneur et qui nous permet de mettre le doigt sur quelque chose. Effectivement, il valait mieux choisir la mort que le déshonneur, car le déshonneur privait la vie de son sens.
Tout à fait. Exactement. Pour l'individu. Exactement. Exactement. C'était. Alors.
Mais ça prouve bien que nous sommes là tenaillés par une exigence morale qui place quelque chose au-dessus de la vie comme perpétuation. C'est-à-dire que chaque individu a un sentiment de sa dignité. Voilà, avec des références vraies ou fausses, mais en tout cas ce sentiment de sa dignité qui va au-delà de sa simple perpétuation, ce qui en fait quand même un individu, pour prendre le terme, radicalement différent de la cellule cancéreuse ou autre, même si par ailleurs on sent qu'il y a cette pulsion ou cet élan vital qui est là malgré tout, mais c'est ce qui fait justement que renoncer à la vie par honneur au sens de la morale ou autre, eh bien c'est ce qui fait que c'est grand justement. Enfin, vous voyez, pour avoir ce type de raisonnement, il faut quand même être un être d'une nature, je pense, quand même radicalement différente du reste du vivant. Et vous preniez l'exemple de l'art. L'art suffit peut-être à distinguer aussi l'homme des autres créatures vivantes. Peut-être, je pose la question.
Alors, tout à fait. Mais cette différence naît du fait que nous sommes des êtres rationnels.
Bien sûr.
Doté d'une volonté. Alors, malheureusement, les autres sont en quelque sorte prisonniers.
Oui, ils sont déterminés génétiquement, en quelque sorte.
Tout à fait. Ils sont génétiquement déterminés, bon, ben, voilà. Mais, ils n'ont... Bien que certains animaux, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas la volonté, mais nous sommes dotés des deux choses fondamentales, la rationalité et la volonté. Et c'est cela qui change tout. Et qui peut nous faire changer même l'évolution de notre espèce.
On va ouvrir de nouveaux abîmes. mais c'est le moment de se poser la question.
Toutes les théories, sur les, et plus que théories, des transhumanismes.
Oui. Et c'est même du post-humanisme, d'ailleurs.
Oui, enfin, on peut dire... Mais, tout ce dont on parle aujourd'hui sur le transhumanisme, eh bien, montre bien que l'homme peut changer complètement l'évolution de son espèce. Les autres ne peuvent pas, en quelque sorte.
C'est terrible, vous allez me faire dire que le transhumanisme est la preuve, est le propre de l'homme. Et oui, par définition, il est capable de se nier lui-même, de se surpasser lui-même, de se nier lui-même. Je n'ai pas d'autre mot. Aucune cellule ne se niera elle-même.
Non. Ils suivent son schéma. Alors, tout ça, ça nous amène à quelque chose... Enfin, je pense qu'un des points pour... Un autre point de cette colloque, c'était les prix de la vie.
Ah, ça, lorsqu'il s'agit de transhumanisme, c'est le moment de poser la question. Le prix et la dignité de la vie.
Tout à fait. Mais est-ce que vraiment a-t-il un prix, la vie? Et là, il y a deux réponses. Deux hommes qui se rejoignent. Jean-François Mattei et Trichet. Tous les deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques, les premiers anciens ministres de la Santé, et les deuxièmes présidents de la Banque de France. Alors, vous voyez, pour Jean-Claude Trichet, que d'ailleurs, il va essayer de faire une différence entre sens en tant que direction, au sens en tant que perception de la sensation. Et il est clair, il veut dire, la vie humaine n'a pas de prix. Et il va développer que absolument la vie humaine n'a pas de prix. En aucun cas ne peut pas s'apprécier en termes monétaires. Cependant, il dit, il apparaît utile, voire indispensable, de donner une évaluation monétaire du préjudice lié à la perte d'une vie humaine. Hélas, toutes les tragédies que nous vivons depuis quelques années, nous amène à cela. C'est-à-dire que la vie n'a pas de prix, mais au moment donné, il faut évaluer quels sont les préjudices. Mattei va aller dans le même sens, en disant, c'est l'homme qui donne un prix à une chose, mais lui-même n'a pas de prix. Ou alors, il est un esclave.
Oui.
Contre la tentation, et là c'est important, et il va rejoindre Marion, les grands rabbins, contre la tentation d'évaluer la vie de l'homme, l'humanisme rappelle qu'il y a du sacré en l'homme. Donc je crois que ces deux réponses viennent à dire formellement, répond formellement, est-ce que la vie a-t-il un prix ? Oh, comme vous le savez, la phrase célèbre, la vie n'a pas pris, mais un coup, et que chacun le ressorte au moment des déficits de la sécurité sociale. Mais voilà, il est une fois pour toutes répondu d'une façon, je crois, très claire.
Oui, parce que Trichet répond dans, voilà, comme un homme chargé d'organiser la société, alors que Mattei se place du point de vue des principes et je pense, terrorisé certainement à juste titre, par un certain nombre d'évolutions qui peuvent mener à considérer que l'homme est un matériau, un produit comme un autre, que l'on peut, et ce ne sont pas des questions théoriques, puisque voilà, l'actualité est traversée de débats, par exemple, sur des questions comme la GPA ou la PMA. Il s'agit bien de commercialisation d'êtres humains. Donc c'est le moment ou jamais, effectivement, de se poser la question de la dignité et du prix. Ou de se poser la question plus fondamentale, est-ce que réellement on peut donner un prix à des êtres humains ?
Mais vous savez, en 1976-75, avec Jean Dausset, prix Nobel, membre de notre académie, qui a décrit les systèmes HLA, et grâce à ces systèmes, peut se faire la greffe d'organes, on avait trouvé, dans son voyage au Brésil, dans un journal à l'époque, une annonce de quelqu'un qui vendait son rein. Et on était vraiment assez choqué. M. Dausset le mettait comme exemple à chaque fois de ce qu'on ne pouvait pas faire. Et c'est pour cela qu'en France, on avait décidé que la greffe d'organes devait être...
Le don d'organes est gratuit.
Et qu'il devait être à partir d'un donneur décédé. Ensuite, ça a changé, mais ça conservait toujours la gratuité. Et on espérait qu'avec les temps, ça change. Eh bien, pas du tout. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. Que soit que soit la commercialisation d'organes, que soit la commercialisation des ovules, et même dans des pays européens, très évolué, trouverait la publicité dans la rue, même pas dans les journaux, dans les petites annonces, non, dans la rue. C'est une forme d'esclavage qui n'est pas autorisable. Et évidemment, est-ce que c'est ça le prix de la vie ? Je ne crois pas. De tout. Pas plus. Alors, croire ça, c'est croire aussi que le corps appartient à l'individu et qu'il peut les monnayer, y faire ce qu'il souhaite. On revient à Marion. La vie m'appartient. Ben non, nous sommes des locataires. Nous ne sommes pas des propriétaires. Nous ne pouvons pas les monnayer.
Écoutez, je pense que c'est une excellente conclusion, en fait. Parce qu'elle est à la fois très profonde philosophiquement et d'une grande portée pratique face aux défis qui se posent et à la société entière, mais aussi à chacun d'entre nous. Peut-être est-ce la clé, finalement, retrouver chacun et collectivement le sens de notre de notre dignité et la dignité de la vie. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que la vie est un défi constant. Mais surmonter ces défis, c'est déjà être dans l'essence de la vie.
Écoutez, sur cette conclusion en forme d'ouverture, j'invite nos auditeurs à poursuivre la réflexion, car chacun a compris que la vie soit une flèche ou pas, il faut poursuivre cette réflexion indéfiniment, et que ce que vous suggériez, je pense, ce qui nous caractérise, c'est de se la poser déjà. Donc il faut continuer à se poser les questions, car le jour où nous ne poserons plus la question, c'est que nous sommes devenus post- voilà. ou infra-humains. Donc posons-nous la question du sens de la vie, ça voudrait dire que nous sommes toujours humains. Nous ne serons ni des robots, ni des microbes, ni quoi que ce soit d'autre. Et au-delà des réponses, l'important, c'est la question, ce doute, cette angoisse qui, malgré tout, nous taraude. Pour poursuivre donc cette réflexion, j'invite nos auditeurs à se plonger dans l'édition des actes de ce colloque. Porte donc le titre « Le sens de la vie » sous la direction d'Edgardo Carosella aux éditions Hermann, spécialisé en philosophie, comme chacun sait. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans ce cheminement infini. Merci, merci professeur. Thank you.